Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Moussa Diop, leader du parti L'Alternative Générationnelle à Jotna. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, la campagne électorale, les élections territoriales, sa candidature à la mairie de Podor, la plainte du nouveau directeur de Dakar Demdik pour escroquerie portant sur des deniers publics, la Coupe d'Afrique des Nations de football et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Maître Moussa Diop, leader de l'Alternative Générationnelle, face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM.
Bonjour à tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Double événement ce week-end, la CAN de foot Cameroun 2021 qui débute ce dimanche. Les Lions du Sénégal attendus demain face au Zimbabwe. Sur le terrain politique, la campagne électorale pour les élections territoriales qui se tiennent dans deux semaines, le 23 janvier. Cette campagne a démarré pendant 15 jours. Les candidats investis par les partis politiques et coalitions de partis vont tenter de vendre leur programme aux électeurs. Pendant ce temps, le Covid rebondit avec le variant Omicron. Bonjour, Maître Moussa Diop.
Bonjour, Monsieur Fall. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui, au Grand Jury, une émission très écoutée et très respectée. En ce début d'année 2022, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, la diaspora, une merveilleuse année 2022 qui soit meilleure que celle écoulée.
On commence par la santé, comme dit dans l'introduction. Le coronavirus qui n'est plus un thème central au Sénégal, malgré la donne Omicron, cela est-il normal, compréhensible?
Bon, vous savez, au début, c'était inconnu, l'histoire de ce virus. L'État du Sénégal a fait ce qui était en sa possibilité. Et bien entendu, il y a eu des variantes. Le Delta, aujourd'hui, l'Omicron. Ce qui est important, c'est que ça ne doit pas paralyser aussi l'économie d'un pays. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes, les citoyens et les Sénégalais prennent des mesures de prévention et respectent les mesures barrières. C'est ça qui est important également. Je pense que l'État du Sénégal a pris des mesures. Aujourd'hui, il revient à la population de respecter les mesures barrières en mettant le masque, la distanciation.
La vaccination aussi,
c'est
qui
important.
Fait défaut.
Oui, parce que la communication a fait défaut, a failli. Hein, il faut le dire au niveau de l'État du Sénégal. On ne peut pas comprendre qu'une autorité dans un gouvernement sorte un communiqué pour dire que malheureusement je suis atteint de la Covid-19 malgré mes deux vaccinations.
C'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux.
Pour ne pas le nommer. C'est une catastrophe en matière de communication. Ça poussait pas mal de Sénégalais à se dire, mais ça vaut quoi d'aller se faire vacciner.
Coronavirus et élections territoriales, la gestion de l'épidémie de Covid-19 dans le pays est-elle un atout ou pas pour Abdoulaye Youssar, le ministre de la Santé, candidat de Benno Bokouyakar à la ville de Dakar?
Je ne l'analyse pas sous cet angle. Il est candidat, il a le droit d'être candidat comme les autres également. Nous sommes dans un pays démocratique. Seulement, il se trouve qu'il est ministre de la Santé et nous sommes en énième vague au niveau de la Covid. Ça ne peut pas être un avantage, je tiens à le préciser. Parce que, vous savez, hein, au début de la pandémie, si vraiment on veut mettre les choses sur la balance, au début de la pandémie, l'État du Sénégal a reçu des vaccins venant de la Chine. La déclaration du ministre de la Santé a été de dire aux Sénégalais que c'était un don. Une semaine après, le chef de l'État a dit le contraire, que c'était quelque chose qui avait été acquis à titre onéreux par le Sénégal pour une valeur quand même de 2 milliards. Il y a du nébuleux. Donc, si on entre dans les détails des détails, on peut se dire beaucoup de choses. Mais je pense qu'il est en train de faire son travail. Et ce qui est important également pour le Sénégal, c'est que nous puissions sortir de cette pandémie et que le meilleur gagne au niveau des élections locales.
En face d'Abdoulaye Doussar pour la ville de Dakar, votre candidat, Barthélémy Diaz, ses chances?
Je l'encourage vraiment parce qu'il est très bien placé pour gagner ces élections. Vous savez, en tant que maire de l'opposition, dans le passé, et même actuellement, les maires sortants, il a été quand même bien noté au niveau des meilleurs maires du Sénégal. Ce n'est pas le fait d'être opposant qui fait de vous un mauvais maire. Il a bien géré sa cité. Il est mieux placé.
En tant que maire de Mermoz-Sacré-Cœur.
Tout à fait. Vous savez aussi, il y a des deux poids, deux mesures qui ont eu lieu ici. On a permis à certains, comme Diouf Sarr, d'aller faire son Dorontou. Et on a refusé à Barthélémy Diaz le Dormoc. Il a fallu tout un tollé pour qu'on lâche tout le monde. Tout ceci montre que ce n'était pas du tout des élections locales, mais entre guillemets, pour l'État et surtout pour la présidence de la République, des élections nationales pour eux. J'ai entendu le discours de son directeur de cabinet, Amour, que c'était, disons, les primaires des élections de ce qui va se passer en 2024. Tout ceci montre qu'ils y tiennent à cœur et à tout prix. Aujourd'hui, vous avez vu le budget de 3 milliards et quelques, uniquement pour des élections locales, alors qu'on
on a vu dans la presse
que c'est onéreux d'organiser des élections. Mais voilà, les choses sont là.
Le compte du pouvoir, selon la presse, a un budget de plus de 3 milliards pour ces élections. Les leaders de Yehu Askanui, votre coalition, coalition de l'opposition, beaucoup se sont retrouvés ce week-end à Ziguinchor pour démarrer cette campagne. Ziguinchor où Ousmane Sonko, le patron de PACIF, est candidat à la mairie. Ses chances à lui.
Il est candidat à Ziguinchor, comme Barthélémy Diaz l'est à Dakar, comme je le suis à Podor. Je tiens à préciser que moi, je suis très textuel. Je préfère respecter ce qui a été prévu par le code électoral, à savoir quoi ? Que ces élections sont des élections locales. Ce ne sont pas des élections nationales. Donc chacun d'aller gagner là où il est. C'est pourquoi je ne suis pas trop entendu sur le plan national de ces élections, mais je me bats dans ma zone à Podor et je pense que vous aurez des surprises.
Oui, justement, vous êtes le candidat de Yehu Askanui pour la commune de Podor. Comment d'abord, abordez-vous cette campagne, justement, Maître Moussa Diop ?
Sereinement. Vous savez, j'étais absent du territoire pendant quelques temps, parce que depuis la fin de la mission qui m'était accordée par l'État du Sénégal, gérant le transport public, je suis retourné à Paris pour gérer mon entreprise, qui était fermée pour des raisons...
Votre cabinet d'avocat.
Tout à fait, mon cabinet, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. C'était illégal.
En face de vous, à Podor, oui.
Oui.
Entre autres, la coalition Benobokriakar et son candidat, Racine Sy, qui a le soutien de la maire sortante, Aïssata Talsal, qui ne se représente pas. La victoire, elle n'est pas donnée d'avance.
Elle n'est pas donnée parce que les sondages ont été très clairs et continuent à être très clairs. Vous savez, je reviens de Podor. Hier, j'étais à Podor. J'ai passé 72 heures et j'ai tâté le pouls. J'ai pris la température matin, midi et soir. Je sais pertinemment que si un candidat au niveau de M. Mamadou Racine Sy a eu l'honneur d'être désigné directement par le chef de l'État, c'est un honneur, mais qu'il n'a pas pu organiser même pas une réunion de Benobokriakar dans Podor depuis le mois d'octobre jusqu'à présent, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas et qu'il y a des problèmes sérieux entre eux. Sans compter que Moussa Diop est entré dans le cœur
des
Podorois.
Si ce que vous dites est avéré, vous voulez vous engouffrer naturellement dans la brèche.
Et bien sûr. Vous savez, c'est pas le fait. L'argent ne fait pas toujours le bonheur, aussi bien dans les urnes qu'ailleurs. Et l'argent n'est pas un programme. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne sortez pas. Alors que Moussa Diop fonctionne sur la base de programmes idéaux.
La sociologie électorale a montré le contraire, que souvent les gens qui ont plus de moyens financiers s'en sortent mieux que les autres.
Et je n'ai pas peur de cela. Je dis, je reviens de Podor commune, où j'ai passé 72 heures, et je sais pertinemment que je ne sais pas le poids que fera l'argent à partir de maintenant. Mais ce qui est clair et net, que les Podorois ont ouvert les yeux maintenant.
La dernière élection tenue au Sénégal, c'est la présidentielle en 2019. Vous y étiez encore responsable et militant dans la coalition de Macky Sall. Vous, Aïssata Talsal et Racine Sy, chacun revendiquait la victoire de Macky Sall à Podor.
Vous savez, je ne me précipite pas.
Ça peut nous servir de baromètre pour savoir.
Je n'ai pas l'habitude de me précipiter. J'ai l'habitude de me presser lentement et sûrement. Tout le monde sait que c'est moi qui ai fait entrer le président Macky Sall à Podor en 2012. Avec la manière, je n'entre pas dans les détails. Pendant ce temps-là, le candidat aujourd'hui, Racine Sy, était avec Wade. Il a rejoint le président Macky Sall entre les deux tours. Moi, j'ai été avec le président Macky Sall avant même qu'il ne soit élu. J'ai été également avec lui au référendum. J'ai été avec lui aux législatives. J'ai été avec lui au présidentiel de 2019. Donc, je ne me précipite pas pour savoir qui a poussé ou qui a poussé le mieux. Ce qui est important, nous avons tous gagné ensemble les élections, mais vous avez remarqué, je pense que la moindre de l'élégance en matière politique, quand vous êtes ensemble, c'est que quand finissent les élections, les résultats tombent, que vous soyez ensemble pour dire, parler au peuple sénégalais à partir de Podor pour ce qui s'y est passé, ensemble. Mais on a vu M. Racine Sy faire la conférence tout seul, alors que j'étais à Podor, disant « j'ai gagné ». Moi, je n'ai pas répondu dessus. J'ai pris ma voiture, je suis venu à Dakar, gérer autre chose. C'était une précipitation pour certains également d'être dans un gouvernement, ce qui n'était pas mon cas. Moi, ce qui m'intéressait...
Allusion à Aïssa Tall, celle qui est entrée au gouvernement pour être ministre des Affaires étrangères.
Bon, vous savez, être ministre, ce n'est pas un concours. Elle mérite d'être ministre, compte tenu de sa carrière, de son passé politique. Et être ministre également... de Podor, c'est un honneur pour Podor. Ça, il faut aussi le reconnaître. Je pense que nos problèmes ou nos différends sur le plan politique ne se limitent pas au fait que quelqu'un est nommé ou pas. Nomination, c'est un acte discrétionnaire. Vous pouvez excellemment travailler pour le Sénégal, mais comme c'est un poste discrétionnaire, faire l'objet d'un limogeage comme Moussa Diop à Demdik. Si je n'ai pas été limogé pour des raisons de résultats, ni de malversations financières, ni d'autre chose. J'ai été limogé parce que j'ai parlé du troisième mandat. Je remercie le peuple sénégalais pour cette réaction concernant ma position.
Alors, quel bilan faites-vous du travail de l'équipe municipale sortante dirigée par Aïssa Tall Sall, qui ne se représente pas? Quel bilan vous faites du travail de l'équipe municipale sortante à Podor?
Elle a fait ce qu'elle a pu, mais je trouve qu'on pouvait mieux faire, compte tenu du fait que, vous savez, elle semble être à l'aise au ministère des Affaires étrangères, même s'il y a quelques difficultés sur, par exemple, des passeports diplomatiques, des choses. Elle semble être à l'aise sur ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, aucune commune sénégalaise ne peut se développer sans une coopération décentralisée. Moi, c'est mon avis. Les communes ne sont pas du tout viables, surtout dans la zone dont vous parlez de la sociologie politique. Un budget aujourd'hui de 284 millions pour la ville de Podor ne permet pas de développer Podor ou même de faire quelque chose de sérieux. Adem dit que je gérais un budget de 10 milliards. Et c'est pourquoi je vous dis, il faudra qu'on y mêle la diaspora et tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice.
C'est comme ça que vous comptez changer Podor alors?
Ah oui. Le programme qui est mis sur place concernant la ville de Podor, c'est un programme inédit, réalisable et surtout réaliste. Nous n'inventons rien du tout. Ce sont des choses qu'on a trouvées là qu'ils n'ont pas osé. Je dis bien qu'ils n'ont pas osé mettre dans la réalité. Nous allons
mais
les
justement,
exécuter.
Les intentions sont très différentes de la réalité. Une fois aux affaires locales, les élus se rendent compte qu'il n'y a pas assez de leviers, assez de possibilités pour développer des politiques en faveur des politiques pour développer leur terroir.
C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faudra qu'on sorte de ce carcan-là pour essayer de faire autre chose. Les lois de ce pays n'interdisent pas de faire de la coopération décentralisée. Si j'ai envie d'aller chercher des moyens à l'étranger concernant pour les élèves, les écoles, pour le plateau médical, ou bien tout simplement pour l'environnement. Aucune loi l'interdit. Je pense que sur ce point-là, il faut quand même en profiter. Revenons sur le bilan de l'ancienne...
La maire sortante.
La maire sortante. J'ai trouvé, j'ai parcouru le plan de développement communal 2019-2023. Qui a été dressé sous le contrôle de la mairesse sortante. J'ai vu que la ville de Podor n'était jumelée qu'à la ville de Cézanne. J'ai trouvé ça quand même un manque d'ambition et de vouloir développer Podor. Podor ne peut pas se développer sans qu'on puisse passer par la coopération décentralisée et faire intervenir également les Podorois de la diaspora, de l'extérieur. Ils en ont fait, les Podorois de la diaspora, comme l'équipement en matériel informatique des écoles, tout ceci, ils le font. De dons d'ambulance, ils en font. C'est toute la vallée qui est comme ça jusqu'à Matam. Si la diaspora ne fait rien, je pense que l'État est souvent absent.
Vous aviez tout à l'heure fait un clin d'œil aux fonctions d'Aïssa Tall Sall en tant que ministre des Affaires étrangères et le scandale présumé du trafic de passeports diplomatiques. Cette actualité, vous, avocat, vous dites quoi? Votre commentaire?
Vous avez dit avocat. Avocat, c'est respect du droit. Ce n'est pas faire la politique politicienne, c'est respect du droit. Même si en politique, sous un autre angle, nous sommes des adversaires. Sur le plan tout simplement du droit, la présomption d'innocence doit intervenir. Mais rien n'interdit des enquêtes administratives. Et vous avez vu également la lenteur avec laquelle l'Assemblée nationale a tardé à lever l'immunité de ses députés, parce qu'ils sont de la mouvance présidentielle. Alors que c'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est un véritable scandale entre la présidence et le ministère des Affaires étrangères. Il y a des gens qui sont interpellés, alors que dans d'autres dossiers, je pense que la levée de l'immunité des députés, parce qu'ils sont de l'autre côté, a été furtive. furtive. Il a fallu même leur demander de faire doucement. Donc tout ceci fait que y a des problèmes.
On peut vous reprocher aussi, vous, opposition, d'avoir plus commenté cette affaire présumée qui frappe des députés de la majorité que la même affaire ou une affaire similaire qui a aussi impliqué de façon présumée des membres du collectif Yanamar, Kilifa et Simon. Vous n'utilisez pas la même tonalité de commentaire.
Vous savez, moi, je préfère...
Le manque d'objectivité de vous, opposition,
non,
aussi.
Non, c'est pas... Moi, je parle de moi. Je suis là devant vous, je vous dis ce que je pense et j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Je ne parle pas de ce que disent les autres, ça. J'ai l'habitude, hein, devant vous et devant les Sénégalais. Je donne des avis qui me sont personnels. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des deux poids, deux mesures sur certaines choses.
De la
si vous parlez de Kélifé, si vous parlez
de
des dossiers oui. concernant Kélifé, Yanamar et peut-être l'histoire de Thierno Diallo, moi, je trouve scandaleux que quelqu'un soit filmé. C'est du droit, hein, on parle du droit. Soit filmé dans un endroit privé qui est un véhicule, alors qu'il porte plainte, on ne s'en soucie pas. On vend ces images à quelqu'un qui les fait sortir, justement pour des règlements de compte. Alors que celui qui l'a fait est aujourd'hui dehors.
Tout le monde est dehors, maintenant.
Oui. Il y a une justice à deux vitesses. Je vais vous donner un exemple plat que vous connaissez et que vous n'avez pas peut-être...
Vous n'abordez pas le fond de cette affaire-là. Le fond, c'est vraiment le trafic présumé de passeports.
Vous savez, quand un dossier est devant les tribunaux, je m'interdis d'aller au fond tant que nous devons respecter ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Si je vais au fond du dossier aujourd'hui, je peux aussi aller au fond du dossier de M. Sonko. Vous ne m'avez pas entendu aller au dossier. J'ai dit, on ne devrait pas essayer de le poursuivre pénalement dans une affaire aussi grave sans lever son immunité. C'était ma position en droit. Mais tout ce qui concerne ça existe, ça n'existe pas, non, laissez la justice faire son travail. C'est ce que j'ai dit. Telle est ma position.
On retourne aux élections territoriales qui font l'actualité avec le début de la campagne électorale ce week-end. Les craintes de violence durant cette campagne, votre refus de signer la charte de non-violence proposée par des associations de la société civile.
Il faut quand même qu'on soit sérieux. Dans un pays qu'on appelle le Sénégal, qui a connu des hauts et des bas, mais en matière d'élection, je pense qu'on peut quand même remercier le bon Dieu. Ce n'est pas le moment de vraiment verser dans la violence. Moi, je condamnerai tout acte de violence. Et je souhaite que ces élections se fassent dans la paix, la concorde, et que le meilleur gagne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais dans un pays où, par exemple, le président de la République, en tant que candidat, en 2012, condamnait les Nervis. Je pèse mes mots. Condamnait les Nervis parce que nous étions ensemble à ce moment-là. Nous avions même rendu visite à la famille de Diaz. Qu'aujourd'hui, cette institution, le président de la République, fait des tournées avec des Nervis. On tabasse des Sénégalais.
Comme à Podor.
Comme à Podor, à Matam surtout. Parce qu'il n'est pas entré à Podor, il est parti vers Matam. On les pourchasse jusque chez eux pour les tabasser. Alors que quand on est président, la relève est assurée par le GIGN et par la BIP, je pense que c'est ça. Comment alors comprendre ce que vous aviez combattu par le passé, qu'aujourd'hui c'est vous-même qui donnez ce mauvais exemple?
Sur les événements de mars, on a vu un véhicule rempli de ces hommes de main entrer au siège du parti APR, le parti de Macky Sall.
Tout à fait. Toutes ces choses-là, vous avez vu les images. Hein. J'ai dit, avec images à l'appui, si vous m'obligez à prouver que ces gens, ces nervis, se retrouvaient au sein de la permanence de la PR, il suffit de me coller un procès pour diffamation, je vous sors les images. Je n'ai pas attendu. Dès que je suis sorti de l'émission, je suis parti les poster. Personne n'a parlé. Parce que ce sont des réalités qui sont là. Donc ces violences-là, il faut les condamner aujourd'hui. Il faut éviter que le pays tombe dans des situations vraiment que nous ne souhaitons pas. Donc allons-y aux élections, que chacun gagne, qui peut gagner, mais dans la paix.
Pas besoin de signer une quelconque
charte. Là également, la paix se fait par deux personnes. Si l'une des parties ne veut pas de paix, l'autre a le droit de se défendre.
Est-ce que Yehui ne montre pas ce visage de « je ne veux pas de la paix parce que je ne signe pas la charte
non, non,
de... »
Non, il n'y a rien à voir. C'est parce qu'il y a un lien qui a été fait par certains commentateurs, mais il n'y a pas de lien. Tout le monde adore et aime la paix, Moi, je pense que...
Vous n'êtes pas d'accord avec cette position de votre coalition?
Non, je suis parfaitement d'accord que le fait que ça doit commencer par ceux qui sont au tenant du pouvoir. Pourquoi signer alors qu'ils ne vont rien respecter? Ils se baladent avec des nervis, ils tabassent les gens, les élèves en ont frais les frais lors des événements de mars. Et ça, je pense que ce sont des choses à dire sans se cacher.
On a vu votre coalition Yébéaskani collecter des fonds pour tenir sa campagne, ses campagnes, puisque les candidats sont nombreux. Avez-vous réussi à amasser assez d'argent pour ça, Moussa Diop?
Il n'y a jamais assez d'argent. Nous sommes de l'autre côté aujourd'hui. Ils sont au pouvoir. Hein. Alors que ce qu'ils faisaient hier, ils nous l'interdisent aujourd'hui. Le président Macky Sall, je pense que c'était au niveau de la TFM d'ailleurs qu'il faisait ses déclarations. Il y avait Barkaba qui était à côté de lui, disant que ses moyens proviennent de la diaspora.
Mais justement, c'est la question suivante. L'opposition qui cherche des fonds à gauche et à droite, le pouvoir qui a plus de moyens, comme souvent, illicite ou licite, l'argent et la politique et la transparence, Maître Moussa Diop. Et là, on parle de tout le monde. Comment définir les règles du jeu au sujet de l'argent utilisé par les partis politiques pour leurs activités comme les campagnes électorales?
Mais tant que les textes ne sont pas respectés, les gens vont risquer, essayer de trouver des solutions pour leur survie politique. Il y a eu un dialogue national. Il y a des questions qui sont posées sur le chef de l'opposition qui doit... Rien n'a été respecté. J'ai d'ailleurs, le dialogue national, quel résultat peut-on en tirer? Je pense que c'est un dialogue officiel pour certains, un dialogue in petto, clandestin, avec l'histoire d'Idrissa Seck, qui est entré dans le gouvernement au mois de novembre, je pense, 2020. On appelle les gens à discuter alors qu'on est en train de faire du clandestin de l'autre côté. Ça a complètement faussé le jeu. Aujourd'hui, les textes qui prévoient, chef de l'opposition, financement des partis politiques, c'est vraiment du n'importe quoi, au point que chacun va essayer de trouver ses moyens, dans la mesure du possible, licites. Ce que fait la coalition Yehu Askanui, c'est du propre, c'est du transparent. La diaspora participe activement, ça crée la panique au niveau de la mouvance présidentielle. Voilà le débat.
Est-ce qu'il y a toutes les garanties de transparence dans cette opération, ces opérations de collecte?
Vous savez, un État est très puissant. S'ils veulent savoir ce qui se passe, ils pourront le savoir par tous les moyens, légaux, même illégaux. Donc aujourd'hui, si rien ne se passe, c'est parce que le Corporate Express, qui a été lancé par la coalition Yehu Askanui, respecte les textes et on y voit que l'argent provient des Sénégalais vivant ailleurs. C'est l'argent venant de l'étranger. Mais les Sénégalais d'ailleurs, pourquoi l'Assemblée nationale comporte des députés de la diaspora? On ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui et le lendemain vous vous contredisez sur ces questions-là. Donc enlevez les députés de la diaspora. Comme ça on respectera.
En même temps, la coalition Beno Bokouyakar doit pouvoir aussi démontrer comment elle a pu collecter, obtenir ces gros fonds. La presse qui parle de plus de 3 milliards de francs CFA, c'est énorme. On ne sait pas d'où vient cet argent.
Vous posez la question sous l'angle de la transparence. Vous savez, les déclarations d'intention, les Sénégalais sont très volubiles et très habiles à la langue. Quand ils vous promettent des choses, vous vous croyez vraiment dans un monde mirifique. En décembre 2012, on a mis sur place une structure qu'on appelle l'OFNAC. Corruption, fraude. Vous avez entendu la présidente de l'OFNAC, Mme Seyne Moudaï-Jaré, dire l'autre jour qu'une trentaine de dossiers, elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Elle fait son travail, saisit le parquet, on poursuit qui on veut selon les intentions politiques ou bien même ce qu'on veut faire de cette personne qui est adversaire. Vous avez le coude, hein, où il y a eu des scandales là-bas, avec le maire de Ndioum. Le président se lève parce que vous aviez posé une question le 31 décembre, je pense, 2018. Le président se lève pour dire, c'est moi qui mets le coude sur certains dossiers. Elle est où l'indépendance de la justice? Elle est où la volonté de transparence? Vous allez sur la gestion de la Covid, avec ce que le ministre beau-frère du président Mansour Faye, refusant d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'argent du public. Toutes ces choses-là sont là devant nous, qui font que la transparence pose problème. Là également, vous venez sur le concret, c'est-à-dire cet argent en pleine campagne, où les gens, on ne sait même pas d'où ça vient, on vous dit qu'il y a eu des cotisations. Demain, s'ils ne sont plus au pouvoir, ils ne sont plus capables de faire la même chose. Ça pose problème. des questions de transparence.
Ben justement, vous avez été directeur général d'une société nationale, Dakar Dimdik, société publique de transport. Les deniers publics et les dernières affaires présumées de détournement, poste trésor public, l'ONAS.
Vous savez, quand on vient pour s'enrichir, on peut le faire à ses risques et périls. Si vous venez pour le pays et travaillez pour l'honneur, vous ne regardez pas l'argent. Vous avez rappelé, hein, aujourd'hui, c'est devenu un sport national, les détournements des deniers publics. À la Poste, à l'ONAS, à la CICAP, à l'IPRES.
Le trésor public.
Le trésor public. Tout ceci, voilà des scandales à milliards, soustraction frauduleuse, détournement des deniers publics. Et l'État réagit au ralenti. Alors que dans d'autres dossiers, nous avons vu, pour rien, des procédures furtives.
Sur le trésor, c'est tellement grave qu'on peut s'étonner de ne pas voir le ministre des Finances réagir. Ce ministère-là ne réagit pas à cette grave affaire présumée.
Je pense qu'ils ont réagi, mais ils ont réagi en disant que nous ne limogeons ni les
directeurs. Oui, c'est un communiqué démenti.
Voilà. Ça signifie qu'ils n'entrent pas dans le fond du dossier pour dire soit on a fait une enquête administrative et qu'il y a faute de ceci ou cela. Aujourd'hui, la justice s'en est saisie, mais c'est quand même très grave que les deniers publics appartenant aux contribuables sénégalais soit utilisé de la sorte. Donc, toutes ces raisons nous poussent à dire attention. Comme vous l'avez dit à l'instant, je gérais quand même moi aussi les deniers publics pendant 6 bonnes années. Je ne suis poursuivi pour aucune malversation financière. J'ai géré 10 milliards par année.
Ah si, un dossier qui vous concerne, qui vous attend. Une plainte pour escroquerie et détournement de deniers publics.
Vous savez, les petits politiques.
De Dakar Dimdik, plainte de Dakar Dimdik auprès du procureur qui aurait demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Moussa Diop, on vous reproche d'avoir empoché près de 60 millions de francs CFA après votre limogeage et la direction générale de Dakar Dimdik aussi donc vous reproche d'avoir fait du faux pour obtenir cet argent, des indemnités de départ encaissées illicitement selon la société. Le président du conseil d'administration de Dakar Dimdik aurait déclaré qu'il n'a jamais signé un document qui vous octroie cette somme. Vous êtes également alors poursuivi pour faux sur un document administratif.
Alors, heureusement que vous aviez employé le conditionnel. Le président du conseil d'administration, le défunt président Maham Diallo, aurait déclaré. Vous l'avez entendu parler ? Non. Il faut qu'on arrête de jouer à la politique politicienne dans ce pays. C'est vrai que ma position, qui est restée constante sur l'histoire du troisième mandat, personne ne peut la changer aujourd'hui. Parce que hier, nous étions avec le président de la République. Nous sommes battus contre le troisième mandat sous Ouad. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, s'il tangue, ni oui ni non, moi, je reste constant. J'ai pris ma responsabilité de lire le droit, mais également sur l'éthique et le respect de la parole donnée. Maintenant, il faut quand même essayer d'abattre ce monsieur. Pensez-vous, monsieur Fall, si j'avais soustrait de l'argent, j'aurais la possibilité de sortir de ce territoire et d'aller à Paris, m'occuper de mon cabinet, revenir tranquillement, vaquer à mes occupations, aller aux élections. Vous savez, porter plainte, c'est rien du tout. Chacun a la possibilité et le droit de porter plainte. On va recevoir vos plaintes, on va l'instruire. Vous parlez d'indemnité de départ. Qui m'a octroyé ces indemnités ? Vous savez l'histoire du président du conseil d'administration ? Il y a autour de lui des membres du conseil d'administration, ceux qui votent. Je suis tellement content et pressé que le juge d'instruction nous convoque. On entendra tous les administrateurs. Avez-vous décidé, vous, des indemnités de M. Diop ? Vous verrez que 8 sur 10 diront oui. Les deux qui ont voté non, vous savez c'est qui ? L'un dépend de Mansour Faye, qui m'en veut parce que c'est le beau-frère du président. L'autre dépend d'Ablaye Diallo. Nous avons des problèmes politiques dans le département de Podor. Ce sont les seuls. Le PCA a reçu des instructions d'avoir à se conformer à la volonté du chef de l'État pour me couler. Le jour viendra, je chercherai des preuves sur ça. Il est de l'autre côté aujourd'hui, mais ce qui est clair et net, on ne peut pas venir donner des indemnités à un manager d'une société publique sur la base d'un contrat prévu entre la société et le DG. C'est normal que le PCA, qui représente le conseil d'administration, signe à droite. C'est normal que c'est proposé au DG. On dit, est-ce que vous acceptez ce montant ? Je signe à gauche. Je vais vous dire pourquoi, lorsqu'ils iront devant le juge d'instruction, vous entendrez des cris qui viendront d'un endroit surprenant. Pourquoi? J'ai remplacé M. Dame Diop, mon frère Dame Diop, que je respecte assez bien, il le sait. C'est le même type de contrat à la virgule près. Le PCA, Maham Diallo, a signé à droite, Dame Diop a signé à gauche. C'est moi qui lui ai versé ses indemnités. Pourquoi le président de la République n'en parle pas? Parce qu'il est de la PRR. Moi, je viens, je signe, le PCA signe toujours à droite, je signe à gauche. Il commence à me payer. Qui m'a payé? C'est l'actuelle direction qui a fait une conférence de presse le 8 janvier pour dire « J'ai trouvé sur place un contrat, je vais commencer à payer en 4 versements, le premier versement, je le fais. » C'est cet argent qui m'a été donné et que aujourd'hui disent qu'ils vont récupérer en disant qu'il y a de l'indu. Or, la restitution de l'indu, c'est du droit civil et du droit pénal. Juge Babacar, les Sénégalais nous entendent. Si on ne maîtrise pas le droit,
Ça pose un petit magistrat. Ça pose, vous démentez toutes ces accusations. Mais c'est à la juge de trancher. Mais l'autre question de fond que cela nous amène à poser, c'est comment à des responsabilités publiques, on peut se faire des indemnités à cette hauteur-là, parce qu'on quitte un poste. Vous êtes aujourd'hui de l'opposition, vous dénoncez un certain nombre de choses dans la gouvernance, dans la transparence. Comment pouvez-vous prendre cet argent-là, Moussa Diop, alors, vous et les autres qui l'ont déjà fait?
Alors, je vais vous dire, moi, je vais répondre pour moi et pour ce que je sais à la matière. C'était permis ou c'était défendu légalement? C'est la loi qui... Non. La loi prévoit que pour les chefs d'entreprise...
Je répète que ce n'est pas la question de fond que je pose. Question de fond que je pose, c'est comment l'État peut mettre des mécanismes comme ça, des indemnités de départ aussi énormes pour des postes de directeur général et autres fonctions.
Je vais vous répondre de deux manières. Pour concernant Demdikan, je ne vais pas aller ailleurs. Pendant 6 ans, j'ai tenu cette boîte comme ça doit se tenir. Aujourd'hui, il ne manque pas un franc dans l'argent de cette société. Le travail que j'ai effectué...
Vous ne répondez pas...
Non, je vais répondre sur ça. Mais je vais vous dire le travail que j'ai effectivement fait, que d'autres ont fait aussi dans leur boîte. C'est quoi 120 millions pour quelqu'un qui a géré 60 milliards, qui l'a très bien géré parce que le vol est devenu aujourd'hui un sport national? C'est quoi?
C'est
120 millions.
C'est 120 plus... millions le montant de vos indemnités?
Tout à fait. Alors que j'en ai reçu qu'un quart. Le reste a été bloqué uniquement parce que je suis contre le troisième mandat. Sortez-moi une décision de justice qui autorise l'État à bloquer mes indemnités. J'avais même saisi le compte. Comme c'est du référé, ils ont soulevé ce qu'on appelle une contestation sérieuse pour pousser l'affaire au fond et faire du dilatoire. Ils feront appel encore en disant qu'on va l'essouffler. C'est là où il faut poser le débat au Sénégal. Quand quelque chose est un contrat, c'est la loi des partis. Personne ne peut le changer. Or, son contrat est là, entre la société et l'ancien directeur général, prévu par les lois. Il n'y a aucune violation. Et parce qu'il est contre eux, allez, il est à abattre.
Je répète, vous ne répondez pas à la question.
J'ai répondu à la question. Ça, c'est pour répondre à votre question, plus précisément. Ça ne me choque pas que quelqu'un qui a bien travaillé soit rémunéré. C'est la loi du mérite, quand même. Légalement.
C'est un raccourci que vous prenez là.
Moi, je préfère être très bref, très précis sur mes réponses.
Bon, le débat va se poursuivre, c'est clair.
Tout à fait.
Craignez-vous alors, est-ce que vous mettez en relation le dernier rebondissement de cette affaire-là, cette plainte sur laquelle on demande au procureur de demander au juge d'instruction d'ouvrir une information judiciaire? Vous mettez en relation avec le contexte politique, les élections territoriales et votre candidature à la mairie de Podor?
Qui est le procureur de la République? C'est un subalterne de l'exécutif dans tous les pays. C'est le bras armé de l'exécutif. Il reçoit des instructions de l'exécutif à travers le ministère de la Justice. Le procureur n'est pas un magistrat indépendant. C'est le bras armé de l'exécutif, tout le monde le sait. Or, j'ai des problèmes aujourd'hui avec l'exécutif. Uniquement parce que je suis têtu sur des principes. On instrumentalise. Et qui porte plainte? C'est Demdik. Demdik géré par un magistrat qui a renié ses convictions. Un magistrat qui fait de la politique. De toute façon, avocat que je suis, un magistrat pareil, je le rencontre devant le tribunal, je le récuse de suite. Parce qu'il est partisan. La justice, c'est l'indépendance. Donc, on va vers des élections. Je suis très bien placé. Je sais, ça fait 72 heures que j'étais à Podor. Et cette campagne ne fait que. Je n'ai même pas fait de pré-campagne. Je dis la campagne commence le 8, on commence la campagne. Visite pour savoir ce qui se passe là-bas. Tout le monde sait. Ils ont fait des sondages, ils savent pertinemment que s'ils ont 40%, ça surprendrait les Sénégalais. De toute façon, on verra bien.
Vous ne craignez pas d'avoir des ennuis avec la justice pendant cette campagne et jusqu'aux élections?
Non, mais il n'y a rien dans ce dossier. C'est dilatoire. Essayer de dire, bon, écoutez, on va terner son image pour ça. Les Sénégalais ont compris. Hein. C'est pourquoi ça ne fait pas l'objet d'un scandale ou quoi que ce soit. De toute façon, je suis très pressé que le juge d'instruction nous invite. On verra très bien que les administrateurs diront que c'est nous qui avons voté cela. Il est où le problème? Et à ce moment-là, la dette sera certaine.
Maître Moussa Diop, notre invité devant le grand jury de RFM ce dimanche, ce qui vous aurait valu vos déboires avec le président Macky Sall, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure, ce serait le troisième mandat. Pour d'autres, c'est votre gestion de Dakar 2010. Pour vous, ça reste le troisième mandat. La raison pour laquelle vous avez eu des problèmes avec le président de la République, il refuse toujours, lui, Macky Sall, de dire si oui ou non il va se représenter. Ce débat, il n'est pas clos.
Au point de ne pas vous inviter au dernier discours à la Nation du 31 décembre dernier, alors que votre question était pertinente.
Ah, ils ne sont pas obligés, hein, je précise.
Non, je ne parle pas d'obligé ou pas. Nous sommes dans ce qu'on appelle les coutumes, les pratiques, comme, voilà, vous faites un discours, les journalistes d'Asribar ont le droit de venir essayer d'expliquer à qui que de droit le laisse-roule, c'est-à-dire les questions qui n'ont pas été abordées. C'était de ni oui, ni non. C'est pourquoi je trouve quand même que c'est le motif principal qui a poussé le président de la République à ne pas vous recevoir, parce que vous auriez pu encore poser cette question, et il ne sait pas quoi dire. Et ce qui est clair et net, les Sénégalais, sur cette question, considèrent que c'est une question cruciale à éclaircir pour la stabilité.
Il ne veut pas répondre, ça met sous tension tout le monde,
oui.
tout le pays.
Tout à fait, tout à fait. Mais tôt ou tard, cette chose va être éclaircie d'ici 2024. Et je trouve que, je souhaite que le président de la République prenne la hauteur, ne fasse pas moins que ses prédécesseurs. Le Sénégal ne connaît pas le troisième mandat. Son prédécesseur a essayé, lui-même l'a combattu. Nous l'avons combattu ensemble. Je disais tout à l'heure, il y a eu plus de 15 morts. Donc, hors de question que le président de la République tente un troisième. Je lui souhaite vraiment de sortir par la grande porte. Telle est ma position sur cette question.
Son discours du 31 décembre, discours traditionnel de fin d'année, il a un peu dressé un petit bilan de son travail, les transports, puisque vous avez été directeur général de Dakar 2010, le TER qui a été lancé depuis le 27 décembre, le BRT qui va arriver, le problème de la mobilité dans Dakar. Vous pensez qu'avec ces infrastructures, le soulagement, il va arriver vite ou on s'y prend mal ou ça va?
Il existe des questions de principe sur moderniser un pays. Moi, on m'avait donné Dakar 2010 pour essayer également de moderniser le transport. Donc je loue l'esprit de vouloir moderniser, mais il faut quand même y être à la page, marcher au rythme et adapter ce que l'argent du contribuable, l'utilisation de l'argent du contribuable aux réalités locales. Je ne suis pas contre le BRT, qui est un projet qui quitte centre-ville pour aller jusqu'à Guédiaoué, en passant au milieu de la ville de Dakar, et je salue ce projet. Mais au stade où se trouve aujourd'hui le Sénégal, je ne comprends pas. Et je l'ai dit en coordination lorsque j'étais directeur général, parce qu'on disait que Moussa Diop n'a pas sa langue dans sa poche, tout le monde le disait. Ce que je condamne, c'est que chaque fois que les gens assoiffés de pouvoir, sont autour du chef de l'État. Ils ne lui disent pas la vérité. Ils ne lui donnent même pas leur avis. Alors qu'ils sont des conseillers avec ERS, ce n'est pas des conseillers avec S. Il faut avoir l'habitude de dire son avis au président. Voilà plus de 1000 milliards injectés sur 36 kilomètres et je reste constant dessus, contrairement à certains.
Vous parlez du TER, là.
Sur le TER. Ouais, ouais. 1000 milliards sur 36 kilomètres. Alors que vous allez au Maroc, 400 km deux fois, à 1320 milliards, TGV, grande vitesse, avec 159 ponts et 12 viaducs, avec un relief plus escarpé. 1320 milliards. Ici, 36 kilomètres à 1000 milliards.
Allez regarder la technologie, si c'est la même chose aussi. Hein. C'est l'argument qu'on,
non, parce que...
qu'on entend souvent des tenants du pouvoir.
Écoutez, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. J'ai été parmi eux. Mais j'ai toujours été avec ma liberté de penser, qu'ils ne pourront jamais acheter. Ce qui m'est interdit, et que je m'interdis, c'est de raconter des balivernes. Et ça, personne ne le sait de moi. Je trouve que 1000 milliards injectés sur 36 kilomètres, dans ces conditions, non. C'est vrai qu'il faut désengorger, permettre aux gens d'aller et de venir. Sur 36 kilomètres, on fera mieux peut-être après. Mais à ce prix-là, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'il y a d'autres priorités. Comment on peut comprendre que le Sénégal aujourd'hui, avec le scandale de la gestion de l'eau potable, Seno, on n'arrive même pas à avoir cette eau potable, qu'on puisse mettre tout cet argent sur 36 kilomètres pour faire plaisir à qui? À la France? Non. La gestion même de la billetterie, vous avez 300 milliards, sans appel d'offres, ça pose problème dans ce pays. Je trouve que, concernant le TER également, nous ne sommes pas à ce niveau. Le Nigeria, entre Lagos et Kaduna, a mis un train, grande vitesse également.
137 kilomètres.
Voilà, à 480 milliards.
Sur une seule voie. Sur une seule voie.
Peu importe, sur une seule voie. Mais, oui.
Pour le TER, c'est trois voies.
Mais c'est trois voies, mais sur 36 kilomètres.
Faites le calcul.
Non. Le prix est loin. Surtout que je pense qu'il y a plus de difficultés au niveau de relief au Nigeria qu'au Sénégal. Pour toutes ces raisons, je trouve que... L'autre jour, j'étais en discussion avec un haut parlementaire, que je ne nommerai pas, qui a voté cette loi sur le TER, qui a permis d'en fixer le prix, qui ne connaissait même pas le prix, il disait 580 milliards hors taxe. Or, c'est 780 hors taxe. Et pourtant, c'est eux qui ont voté la loi. C'est problématique. On ne sait pas comment. Et ces raisons-là nous poussent aujourd'hui à dire que ce n'était pas une priorité dans un pays où les gens ne mangent pas à leur faim, dans un pays où les gens se soignent difficilement parce qu'il y a le plateau médical qui est défaillant, dans un pays où aujourd'hui on détourne à tout voir l'argent du contribuable et il y a de l'impunité sans aussi qu'il y ait de la transparence.
L'avocat Moussa Diop, notre invité et leader du parti politique Alternative Générationnelle, membre de la coalition IEU Askanui pour les élections territoriales du 23 janvier. Vous êtes donc avocat. La proposition de loi maintenant pour la criminalisation de l'homosexualité est rejetée, déclarée irrecevable par le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Moustapha Niass, qui dit que l'homosexualité est déjà punie par une loi dans le code pénal, et cela depuis 1965. La loi parle d'actes contre nature et non expressément d'homosexualité. C'est ce que les associations ne comprennent pas. Votre réaction à ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale?
Je trouve d'abord que le Sénégal n'est pas un pays islamique. D'accord dessus, sur le postulat. Deuxième chose, qu'il y a un texte qui punit ces actes. Tout ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de renforcer et de durcir les sanctions. Passant, c'était 1 à 5 ans, maintenant on va dire 5 à 10 ans, criminalisés. Moi je pense que les textes qui sont là nous suffisent largement pour lutter contre ces pratiques. Il n'y a pas besoin d'aller corser. Et demain, on va vous interdire les réunions parce que les associations ont pris le relais pour dire, écoutez, il n'y a plus de fête de danse, ou bien s'habiller comme ça, ça devient une infraction. Il faut toujours être un homme de mesure. Moi, je me limite à la législation actuelle et je ne vois pas tout ce tollé-là. Ça ne sert à rien du tout. Le Sénégal a dit qu'ils ne vont pas légiférer, mais tout simplement accepter et valider l'homosexualité. Au Sénégal, le chef de l'État l'a dit plusieurs fois, et devant des chefs d'État, même d'Amérique, qui étaient venus à Dakar. Donc moi, je pense que les choses sont claires. Il faut aller travailler pour développer ce pays et non être dans des détails.
Sur cette question, vous êtes d'accord avec la majorité?
Je suis d'accord, pour vous dire que je ne suis pas nihiliste.
Ce qui peut-être mérite aussi un débat dans ce communiqué-là du bureau de l'Assemblée nationale, c'est peut-être cette phrase, je cite, et ça c'est le bureau de l'Assemblée qui parle, « Tous les Sénégalais connaissent la position définie et affirmée en plusieurs occasions par le président Macky Sall. Le Parlement, à qui on demande de légiférer, et qui se réfère à des déclarations du chef de l'exécutif, du chef de l'État. »
Vous êtes en train de poser une question qui est relative également à l'indépendance du...
Exactement.
Tout à fait. Du Parlement par rapport
Est-ce que
l'exécutif,
est-ce que
ça on sait pertinemment,
le législatif doit s'accommoder de propos de l'exécutif
Non, c'est pas s'approprier. Si l'exécutif a une position qui est meilleure, qui est bonne, pourquoi ne pas dire que c'est bon, même si c'est votre adversaire? C'est ce que je viens de faire ici à l'instant sur la question. Mais si on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas d'accord. Seulement, sur d'autres contextes, c'est une majorité mécanique, ça on le sait. Sur d'autres questions, je vous dis.
C'était le fond de la question.
C'est pour le faire lever.
C'était le fond de la question.
C'était ça.
L'Assemblée nationale qui réagit au bon vouloir du chef de l'exécutif.
Et je pense qu'aux prochaines élections législatives du mois de juin, dont parle le chef de l'État, je suis quasiment sûr d'une chose, que les choses vont changer au niveau de l'Assemblée nationale, parce que les Sénégalais aujourd'hui adorent, et vous, le comportement de la coalition Yew Askanui. C'est l'opposition qui empêche, c'est la coalition qui empêche aujourd'hui le Beno Bokayaka de dormir. J'avais entendu le discours de Mahmoud Salé à Mbour qu'il faut les enterrer. Il faut les enterrer. C'est la panique hein, de l'autre côté. Mais nous, nous ferons de sorte que...
Il a raison de dire peut-être aussi que ces élections territoriales sont, entre guillemets, le premier tour de la présidentielle 2024.
Et pour eux, parce qu'ils ont envie de faire un...
Pas pour vous?
Non, je ne suis pas d'accord du tout. Ces élections sont locales. Chacun n'a qu'à aller se battre chez lui.
Rien à voir avec la présidentielle.
J'ai dit qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, le président Macky Sall ne fera pas, je ne dis pas ne doit pas, ne fera pas un troisième mandat au Sénégal. Et je lui souhaite d'être lucide et ne pas écouter son entourage.
Vous basez sur un argument juridique, je le sais, politique aussi, pour dire ce que vous êtes en train de dire.
Juridiquement, il ne doit pas. Parce que la même constitution de 2001, c'est la même constitution qui est là. Il y a eu des modifications en 2016-2017, mais ce sont des réformes. Mais la constitution sénégalaise, lorsque le président Macky Sall prenait le pouvoir, disait deux mandats. Il y a eu un changement sur la durée du mandat, il n'y a jamais eu de changement sur le nombre de mandats. Que ces deux juristes-là viennent dans un débat, Babacar, on verra bien. Et sur d'autres questions, j'avais même invité des gens à venir débattre avec moi ou avec d'autres sur des questions aussi simples. Mais à vouloir jouer à une gymnastique intellectuelle, on finit toujours par être ridicule devant les gens, ou bien être devant un journaliste tout seul pour raconter des histoires. Ce qui est clair, le président Wade, lorsqu'il prenait le pouvoir, il n'y avait pas de limitation de mandat. On est d'accord, c'est la constitution sous Abdou Diouf. On peut comprendre qu'il y ait interprétation. Avec le président Macky Sall, il n'y a pas d'interprétation. Il a trouvé deux mandats, il s'est battu contre un troisième mandat, il ne peut pas faire de troisième mandat. C'est tout. Clair et précis. Et sur le plan éthique, le respect de la parole donnée. Il faut que la parole donnée soit sacrée. Surtout lorsqu'on est la première institution du pays. Je souhaite au président Macky Sall de ne pas écouter ceux qui veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Le pouvoir rend fou. Et le pouvoir absolu rend absolument fou. Mais dans tous les cas, nous sommes dans une démocratie et l'alternance, c'est l'essence de la démocratie.
La politique qui domine les actualités, mais on est... tout de même focus sur le foot, la CAN, qui a démarré ce dimanche. Le Sénégal joue demain lundi à Bafoussam à 13h, temps universel, heure de Dakar donc, contre le Zimbabwe. Le Sénégal enfin champion d'Afrique. Vous y croyez, Maître Moussa Diop?
J'ose y croire, parce que j'ai été avec pas mal de Sénégalais assez déçus par le passé, et toujours déçus au moment où il ne restait plus rien pour avoir la coupe. Et j'ose espérer que cette fois-ci sera la bonne. Et quand j'ai vu le premier match, c'est contre le Zimbabwe, j'ai dit, bon, ça me rappelle des choses, hein, avec François Bokandé. Donc tout ceci fait qu'il y a de l'optimisme, il y a aussi cette volonté de vouloir aller gagner cette coupe. Il faut y mettre la manière, c'est tout, et les moyens aussi, surtout. Je ne peux pas comprendre qu'on mette des milliards ailleurs pour gagner la Coupe du Monde, ou bien et même la Coupe du Monde. Hein. Il nous restait trois matchs pour être finaliste et gagner la Coupe du Monde. C'était faisable, sur cette génération-là. Donc on leur souhaite vraiment tout le succès, qu'ils nous ramènent la Coupe, par toutes les manières. C'est tout.
Merci, Maître Moussa Diop.
Merci, je tenais à vous remercier, M. Babacar, de m'avoir permis de m'adresser aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs sur des questions qui concernent tous les Sénégalais sans exclusion. Et je pense que 2022 sera une année importante, un virage important, permettant au chef de l'État de clarifier la situation, mais également de permettre aux Sénégalais d'aller aux élections dans la paix.
Merci. Vous êtes le leader du parti politique Alternative Générationnelle, membre de la coalition Yehui Askanui. Vous êtes le candidat de Yehui pour la commune de Podor. Merci à Yaya et Abdou. Restez avec nous. Les programmes continuent. Bonne fin de week-end. À dimanche pour notre rendez-vous du grand jury de RFM.
Mi-te-kan hamadra-yi-tin Makora Ham Makora Nakunika Hinn